Bonjour à tous. Non, je ne vais pas prêcher sur la Pentecôte, mais un petit peu quand même. Et je suis très content que le Seigneur ait guidé Christian comme il l'a guidé, parce qu'il vous a beaucoup parlé du fait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose d'essentiel, cette idée que le Saint-Esprit est en nous. Hein, et dans les rôles de chacun dans la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui habite en nous. Et c'est vraiment un privilège parce que les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vécu avec le Saint-Esprit. Seulement sur certains, le Saint-Esprit est venu, mais d'une façon générale, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec la venue de Jésus. Donc c'est vraiment un privilège, je suis content que tu en aies parlé, parce que comme je dois vous prêcher sur le livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, lui, ne parle pas du Saint-Esprit. Et pourtant, sous-entendu, on le sent. Donc, c'est bien que tu aies insisté sur cette notion ce matin, et je suis sûr que le Seigneur avait prévu tout ça. Donc, pour les gens moins habitués à l'Église, je prêche depuis une année et demie, deux ans même, sur ce livre de l'Ecclésiaste, et j'en suis à l'avant-dernier chapitre, hein, puisque c'est le chapitre 11. Peut-on vivre dans le monde sans rien connaître de l'avenir ? Dans mon dernier message, qui traitait du chapitre 10, j'avais tenté de répondre à la question « Que faire dans un monde où tout va de travers ?» On avait vu que dans ce bas monde, telles des mouches qui font fermenter l'huile du parfumeur, c'est l'expression de Salomon, il y avait des gens, des situations qui nous pourrissaient la vie et on pouvait rien faire contre cela si ce n'est accepter de faire avec. On avait vu aussi que nous pouvions être, pour certains, des mouches et là-dessus, par contre, on pouvait agir puisque je suis moi-même la seule personne que je peux changer. Dieu veut m'aider à cela, et dans le temps de la grâce que nous vivons, Dieu est tout à fait actif. Dans la méditation du chapitre 11, que je vous propose ce matin, nous allons voir donc comment agir avec Dieu dans ce monde où tout va de travers et dont nous ne connaissons rien, mais où Dieu nous a placés. Marie, est-ce que tu veux bien nous lire le chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste.
Lance ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Partage ton bien avec sept autres ou même avec huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il pleut à verse sur la terre. L'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui guette sans cesse le vent n'en semencera jamais. Celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent. Tu ne sais pas comment se forment les eaux de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence. Et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main. Car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Douce est la lumière et il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si l'homme vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur, et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de
Alors, si on en croit la lecture de ce texte, nous comprenons que, ne sachant rien de l'avenir, vivre dans ce monde nécessite de prendre des risques. Si des parents veulent mettre au monde un enfant, peser tous les risques pour eux-mêmes et pour le bébé à naître, peut-être ne mettrait-il jamais l'enfant au monde. Pourtant, ne pas donner la vie à un enfant parce qu'il y a des risques, c'est aussi refuser à un enfant la joie de connaître le bonheur de vivre sur cette terre. Alors, sommes-nous prêts à vivre dans ce monde, même si c'est risqué, parce que nous savons que du risque naît la joie? C'est l'objet de mon message en ce jour de Pentecôte 2011. Premier point, vivre, c'est prendre des risques parce qu'on ne sait rien de l'avenir. Et je vous invite à écouter Jean Gabin. Alors Jean Gabin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand acteur français du XXe siècle, un homme qui, quand il a eu 60 ans, a chanté cette chanson. Voilà, agis justement parce que tu ne sais rien. Alors on va prendre un exemple. Lorsqu'on a acheté ce bâtiment, il était comme ça. Pas très beau. C'était quand même risqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'était que quelques-uns. Il fallait donc l'acheter, mais il fallait aussi faire des travaux. Heureusement, vous remarquez, il y avait des jeunes qui bossaient là. Et des moins jeunes. Alors, valait-il la peine de se lancer alors que nous étions si bien, à 40, dans le sous-sol de la maison que vous voyez là? La réponse est oui. D'une part, parce que chez Laurent, ça devenait petit. Et d'autre part, parce que nous voulions voir l'Église franchir une étape et nous avons pris un risque que nous ne regrettons pas. Ensuite, Salomon dit, donner une part à 7 ou à 8, mais si on le fait, c'est risqué. On peut craindre de donner. Mais l'Ecclésiaste nous dit, non, donner, c'est être habile. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc ne pas donner, pour Salomon, c'est prendre le risque de ne pas être secouru le jour où nous serons dans le besoin. Ensuite, l'Ecclésiaste nous parle de la météo. Quelque chose que nous prétendons mieux connaître aujourd'hui que dans le passé, mais qui, encore très souvent, nous surprend. Alors, on va faire un sondage. Qui serait partisan, ici, de voir Dieu accorder à l'homme le pouvoir de maîtriser la météo? Est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord, là? Dieu nous donne le pouvoir de maîtriser la météo, c'est-à-dire que là, on a envie qu'il pleuve, hein. En ce moment, on est en pleine sécheresse, on voudrait qu'il pleuve. Qui serait d'accord pour que Dieu nous donne le pouvoir de dire pluie, merci. Ah, il y en a qui pensent que ce serait un bazar. En effet, on aimerait bien que la pluie tombe, si l'homme était capable de maîtriser le temps, ce serait la guerre entre les désirs des uns et des autres. Et on a déjà pas mal de sujets pour se faire la guerre, donc peut-être que Dieu a eu cette prudence supplémentaire de ne pas nous laisser la maîtrise du temps. Donc ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir a du bon. Et l'Ecclésiaste nous rappelle, si un arbre tombe, il tombe à l'endroit où il est planté, et pas ailleurs. Donc faisons juste attention à ne pas être dessous, si on peut. Et puis si tu es paysan, dit l'Ecclésiaste, ou si tu jardines, ne te fie pas sur ce que tu connais de la météo et sur ce qu'annonce la télé ou Internet. Pourquoi ? Parce que tu risques de laisser passer le bon moment pour planter ou pour récolter. Donc conscient du fait que je ne connais pas tout, je dois vivre. Et vivre, ce n'est pas rester les bras croisés. Vivre, c'est agir pour notre bonheur. Eh oui, mes amis, Dieu ne veut pas pour nous seulement une vie de foi, mais il veut aussi pour nous une vie de joie. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce message. Vivre, c'est prendre des risques pour connaître la joie. Alors, le sixième verset de ce chapitre 11 a été déterminant dans ma vie. Jeune chrétien, je décidais de faire confiance à Dieu pour qu'il me montre ses choix pour moi et en particulier en matière professionnelle. Avant de rencontrer Dieu, j'avais été éducateur scolaire, j'avais été animateur culturel, hyperactif, et puis j'avais été instituteur dans une classe de perfectionnement. Et se présentait alors pour moi la perspective de devenir instituteur pour des enfants trisomiques, ce qui signifiait instituteur avec une pédagogie très différente, puisque pour la plupart, ces enfants étaient dans l'impossibilité de savoir lire et compter. J'étais prêt à tout, mais j'avais un choix à faire et je ne savais rien de l'avenir. Et ce jour-là, je lisais le livre de l'Ecclésiaste, et en particulier ce 11e chapitre. Et le Seigneur m'a arrêté sur ce verset 6. Sème tes graines, et dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela ? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons ? Peut-être que ça ne vous dit rien du tout, ce verset-là. Mais pour moi, il a été déterminant. Parce qu'immédiatement après l'avoir lu, je savais que je pouvais répondre oui à l'inspecteur qui me proposait la classe d'enfants trisomiques. Je ne savais absolument rien de l'avenir. Mais Dieu me disait, à travers ce verset, « Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne dois pas. » Et si c'est Dieu qui me le dit, j'ai toutes les chances pour qu'il soit avec moi dans ce choix. 20 ans plus tard, en partant à la retraite, je pouvais conclure, j'ai eu, en tant que maître de cette classe spéciale, les plus grandes joies que j'ai pu connaître tout au long de ma vie professionnelle. Donc prendre des risques apporte la joie. Alors, il y en a qui disent, j'ai entendu encore cette semaine, la vie est une vallée de larmes. D'autres qui disent, vivre en France avec 3000 euros par mois, c'est pas possible, moi je tiens pas le coup, hein. je fais pas le joint. L'Ecclésiaste, lui, nous dit, la lumière est douce. Et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. En d'autres termes, la vie est non seulement bonne en soi, mais elle est là pour être savourée. Pour être savourée avec enthousiasme, comme du miel. Ce matin, je donnais une tartine à mon petit-fils. Dessus, il y avait du beurre, et du miel. Il a pris la tartine, il a léché le miel et me l'a redonné pour que je remette du miel dessus. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'avait déjà fait hier. Et il le fera demain. C'est bon de vivre sur cette terre. Et en particulier, je le reconnais tout à fait, c'est bon quand on est retraité et en bonne santé. Pourquoi donc ne pas en profiter? Même si je sais que la vie avec Dieu sera une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus riche que la vie sur la terre, comme Pierre Kieffer nous l'a si clairement démontré dans ce lieu même il y a 15 jours, eh bien, je suis aussi d'accord pour vivre encore un bon moment et continuer à faire tout ce que je fais sur cette terre. Mais être heureux de vivre, ce n'est pas non plus être béat. Être heureux de vivre sur cette terre, c'est aussi savoir ce qu'on a vécu ou qu'on peut vivre peut-être en ce moment pour certains. L'Ecclésiaste nous rappelle de nous souvenir de ces mauvais moments, de ces moments sombres, et il convient vraiment de ne pas les oublier. Ces moments sombres de la vie où nous avons eu conscience que Dieu était là et qu'il nous a aidés à les passer. Prendre conscience que Dieu est là, c'est possible, et seul, si et seulement si, et là c'était ce que Christian a dit tout à l'heure, on a l'Esprit de Dieu en nous, si notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je vous invite à la troisième partie de ce message, pas anodin un jour de Pentecôte. Vivre, c'est prendre des risques, mais c'est plus facile avec le Saint-Esprit en moi. Donc l'Ecclésiaste termine son chapitre en disant, comme d'habitude, que la vie est comme une fumée, et à cause de cela, il interpelle les jeunes et il leur dit: jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. S'il dit cela, c'est pour que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, profitent à fond de leur vie sur la terre. Qu'ils se réjouissent, qu'ils fassent des projets, qu'ils soient curieux de tout. La vie sur la terre n'est pas quelque chose de triste, et ceux qui pensent que la vie d'un jeune chrétien est une vie fade, eh bien ils se trompent. Et je pense que le témoignage de nos jeunes l'année dernière lors du baptême l'a prouvé. Je pense aussi que l'enthousiasme des jeunes de l'IBG il y a 2 semaines ici à Chinon l'a également démontré. C'est sans doute pendant qu'on est jeune qu'il faut tenter des choses, donc prendre des risques. C'est quand on est jeune qu'il faut se former. Enfin, c'est quand on est jeune qu'il faut prendre la décision de suivre Jésus-Christ et lui donner notre vie, car l'Ecclésiaste poursuit son discours en avertissant. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, pour ne pas tomber sur le coup du jugement de Dieu, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et s'il est le Seigneur de notre vie, la phrase de Salomon devient caduque. Car comme on peut le lire dans Jean chapitre 3, celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas jugé, alors que celui qui ne croit pas est lui déjà jugé. Jésus, quand Salomon écrit, n'est pas encore venu sur la terre. C'est pourquoi Salomon parle de jugement. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons le moyen de ne pas craindre le jugement de Dieu. Et ça, c'est un privilège, le privilège qu'on a lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Mais ce n'est pas parce que nous ne serons pas jugés que nous pouvons faire n'importe quoi. Alors prenons la phrase de Salomon, « Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement », comme, traduite différemment, « Sache le jour où tu vas t'éloigner de Dieu, que l'esprit qu'il a placé en toi va être attristé. » Et il faudra qu'à ce moment-là, tu saches demander pardon pour retrouver la connivence que tu avais avec Dieu. Si tu ne demandes pas pardon, eh bien tu vas te plaire, tu vas te perdre encore plus. C'est-à-dire tu vas errer, il va te manquer quelque chose dans ta vie. Par conséquent, la phrase de Salomon, à la suite, est tout à fait à propos, puisqu'il conseille aux jeunes et aux moins jeunes, chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Voilà, vivre, c'est prendre des risques parce qu'on ne connaît rien de l'avenir. C'est vrai. Mais vivre, c'est prendre des risques pour connaître la joie et tenter de vous le trouver. Mais vivre en prenant des risques, c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on connaît le Seigneur et que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, pour conclure, est-ce parce que nous ne savons rien de l'avenir que nous devons forcément être catastrophistes? Vendredi matin, quand je terminais mon message, j'avais fait une conclusion un peu passe-partout. Pas bien de faire ça. Mais bon, j'avais pas d'idée, donc j'ai fait une conclusion un peu passe-partout. Et je descends prendre mon petit déjeuner. J'allume la radio, j'écoute France Inter. Et ce matin-là, Régis Debray, qui est un philosophe français très intelligent, j'aime assez ce qu'il dit, mais il est athée, et donc on ne peut pas être d'accord avec tout. Mais il parlait de son dernier livre, qui sort la semaine prochaine, et qu'il a intitulé « Du bon usage des catastrophes ». Dans ce livre, il dit que nos contemporains européens, en devenant incroyants, puisqu'il remarque qu'il y a de moins en moins de gens qui fréquentent les églises, donc ces contemporains européens ont remplacé l'espérance née de la foi par la culture de l'irrationnel. Et c'est assez vrai. De ce fait, ils vivent dans la peur de la prochaine catastrophe. Debray, il affirme même que, sans connaître de catastrophe, des gens européens, quoi, ils sont plus angoissés que dans des pays où il y a tout le temps des catastrophes. Alors, comme il n'est pas croyant, il pense que ceux qui croient aux prophéties de l'Apocalypse, comme nous, eh bien, sont aussi des gens irrationnels. Mais ça, c'est parce qu'il n'est pas chrétien. À l'inverse, il remarque que pour les Japonais, même une catastrophe comme celle qu'ils connaissent en ce moment, qu'ils viennent de vivre, ne va pas les empêcher de faire des projets. Au contraire, ils disent « la vie est fragile, mais on s'en est toujours sorti ». Vous savez que la menace du Japon, c'est d'être complètement sous la mer. Un jour, c'est un risque fort d'arriver. Et le Japon, c'est quand même le pays qui a connu la première bombe nucléaire sur la tête. Ben, Debray dit que ces gens-là, ils n'ont pas cette crainte de l'avenir qu'ont les Européens. Alors, lui, Régis Debray, il voit l'Apocalypse comme un livre catastrophiste. Alors, il poursuit sa pensée en invitant les gens à raisonner davantage comme les Japonais, que comme des vrais croyants. Je dis dommage. Parce que s'il avait entendu le message de Pierre Kieffer à l'église de Chinon il y a 15 jours, s'il s'était renseigné sur ce qu'est effectivement la Pentecôte, il aurait compris que les chrétiens qui croient à la parole de Dieu ne prennent pas l'Apocalypse pour le livre des catastrophes, mais pour le livre de la révélation par l'Esprit Saint de ce qui va arriver. Ce qui va arriver pour nous chrétiens, ce n'est pas une fin du monde catastrophique comme celle que les irrationnels imaginent pour le 21 décembre 2012. Mais la fin du monde, cela signifie le retour de Jésus. Cela signifie la création d'un monde nouveau où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors, j'ai commencé mon message, rappelez-vous, avec la chanson de Jean Gabin qui disait « À 60 ans, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais ça je le sais. » Eh bien, je le termine en vous disant « À 60 ans, et après avoir vécu un temps sans Dieu et un temps avec Dieu, je sais que Dieu tient mon avenir entre ses mains, et ça, je le sais. Et ce qui fait que ma vie a du sens, et c'est ce qui fait que ma vie a du sens, et que j'aime la vie. »